Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le balado du Centre des compétences futures qui rassemble les experts de tout le Canada pour discuter des défis les plus importants pour l'avenir du travail. Je suis votre hôte, Julie Caffley. Je suis la directrice générale chez Catalyst Canada. Ce balado vous est présenté par le Centre des compétences futures et le Conference Board du Canada. Aujourd'hui, nous allons examiner la question de l'intégration professionnelle de ces nouveaux Canadiens et en particulier la situation au Nouveau-Brunswick. Cette province a récemment mis la priorité sur l'immigration pour les 5 prochaines années avec l'objectif d'attirer 7500 immigrants par an d'ici 2027. Mais au-delà d'attirer ces nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick, se pose la question de leur intégration professionnelle. Comment s'intègrent-ils au marché du travail? Quels sont les principaux obstacles pour eux et pour les employeurs? Et quelles sont les actions prioritaires pour faire de ces nouveaux arrivants la nouvelle main-d'œuvre dont le Nouveau-Brunswick a tellement besoin? J'ai avec moi aujourd'hui deux représentants du Nouveau-Brunswick pour discuter de ces questions. Monsef Lacroix, président du Conseil culturel du Nouveau-Brunswick, et Jason Limongelli, vice-président du groupe J.D. Irving. Merci à tous les deux de vous joindre à nous aujourd'hui pour discuter de ces enjeux. Monsef, pour commencer, on va parler de l'impact des nouveaux arrivants pour le Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui fait des nouveaux arrivants un élément si important pour l'économie du Nouveau-Brunswick?
Ben merci Julie. L'immigration est un phénomène extrêmement important pour la croissance non seulement démographique, mais aussi économique pour la province. On célèbre ensemble dernièrement le fait qu'on a fessé les 812 000 personnes au Nouveau-Brunswick. C'est quelque chose que je dirais quand même qui est assez historique. Les constructions à pas finir, il y a des nouvelles écoles, il y a des employeurs éventuellement qui sont en train de recruter des personnes issues de l'international. Il y a des nouvelles entreprises, des micro-entreprises qui sont démarrées par des immigrants. Il y a beaucoup d'étudiants qui fréquentent des écoles, des universités et des étudiants internationaux qui arrivent plus aujourd'hui que jamais auparavant dans la province du Nouveau-Brunswick. Toutes ces choses font en sorte qu'on est perçu comme une des meilleures provinces au pays. On est perçu comme une province extrêmement en croissance et en développement et qui représente beaucoup de potentiel pour ceux et celles qui viennent d'ailleurs. On est aussi bilingue, donc ça permet à des personnes aussi bien du français, de l'anglais et d'autres cultures éventuellement de faire du Nouveau-Brunswick leur terre et leur chez-soi. L'avenir est Nouveau-Brunswick en matière de développement économique et social. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes, incluant moi-même et ma famille, ont choisi cette place parce que il n'y a pas mieux que le East Coast pour éventuellement faire un projet de vie et s'installer et faire de son immigration une réussite.
Super, merci Monsef. Puis Jason, pouvez-vous nous parler un peu du profil de ces nouveaux arrivants? Vers quel type de poste est-ce qu'ils se dirigent le plus souvent?
Certainement, Julie, merci. Bien, c'est certain que nous autres, chez J.D. Irving, on cherche des gens avec des certaines compétences. On cherche des travailleurs expérimentés, soit dans la profession de la forêt, pour travailler en forêt ou certainement des camionneurs, mais aussi en gestion. On a un gros besoin des comptables, des gens en finance, des gens pour la gestion puis l'aménagement de nos opérations. Donc, on est axé sur des gens qui ont déjà des compétences puis des permis pour travailler dans le pays puis au Nouveau-Brunswick ou qui peuvent atteindre les permis ou les licences pour facilement travailler dans le pays. On est axé plus sur des résidents permanente. On veut que les immigrants restent dans la province, dans nos opérations certaines, dans nos communautés, soit urbains ou rurales. Donc, c'est pas juste des postes temporaires. Certainement, pour nous autres, on est axé plus sur des résidents permanentes.
Excellent. Donc, j'aimerais plus comprendre les obstacles à l'intégration professionnelle de ces nouveaux arrivants.
C'est certain qu'on a certains obstacles culturels, mais dans notre expérience, ça vient de mieux en mieux avec les communautés où est-ce qu'on travaille pour réussir de passer au travers des obstacles culturels. Mais on a des autres défis. Certainement, le logement, c'est certainement un gros défi à ce moment, que même si on apporte du monde 7500 par année, on n'a pas de logement. Donc, ça, c'est devenu un gros défi en termes d'amener du monde. Mais il y a aussi d'autres sortes de compétences. Nous autres, au Canada puis au Nouveau-Brunswick, on est habitués à certaines choses. On est habitués à notre système de finances. On est habitués à notre système de taxes. On n'est pas tout le temps reconnaissant que du monde des autres pays sont pas habitués à nos systèmes. Donc, il y a un gros défi d'expliquer, par exemple, notre système de taxes au Nouveau-Brunswick, provincial, fédéral, taxes de vente, taxes sur les autos, taxes de propriété, la finance, travailler avec une banque, chercher une hypothèque. Certaines choses que, dépendamment de quel pays d'où vous venez, le monde sont pas habitués à ça. Puis on n'a pas vraiment les ressources à cette heure pour faire certain qu'on prend soin de ces défis avec des nouveaux arrivants. Je pense qu'on a certainement un bon système d'intégration, de faire certain que le monde se sent bienvenu au Nouveau-Brunswick, de les intégrer dans l'école, mais de vivre leur vie comme un Canadien, comme un Néo-Brunswickois. On a besoin encore d'augmenter les ressources pour les aider à une intégration complète.
Excellent, merci. Puis Monsef, de votre côté, comment est-ce que vous voyez ces obstacles-là pour l'intégration?
C'est la même affaire, on connaît les mêmes personnes. Donc, lorsqu'il y a des gens qui viennent de l'international, il y a beaucoup de défis d'intégration dans la première année, entre autres, dans les premières deux années. Entre autres, l'expérience canadienne. On leur demande, lorsqu'ils appliquent pour des emplois autres que les programmes ou ce qu'ils sont déjà matchés avec un employeur, ben, vous n'avez pas d'expérience canadienne, on peut pas vous engager parce que vous n'avez pas de référence, etc., etc. Donc, déjà, ça, c'est un obstacle majeur. Deuxièmement, la langue. Les personnes qui ont des défis de langue, entre autres, mettons, les francophones qui arrivent de l'Afrique ou autre, qui pensent que la province, que normalement, c'est une province bilingue, mais quand tu arrives dans le sud-est et que tu maîtrises pas l'anglais, ben, t'as pas nécessairement de chance d'obtenir un emploi. Autre que des domaines qui opèrent strictement en français, mais ils sont très, très, très limités. Il y en a peut-être, je peux les nommer sur une poignée de main. Plus de 80 % des emplois dans la région se font à travers le réseautage. Mais il y a des gens qui arrivent de l'international qui connaissent personne, qui vont aboutir à un emploi lorsqu'ils connaissent personne. Et vous le savez, à la fin de la journée, en Nouveau-Brunswick, on se connaît tous. Même si on a augmenté de population, on est juste 800 000 dans toute la province, puis je pense qu'on connaît tout le monde. Alors, la chance pour qu'un immigrant puisse aboutir à des emplois et qu'il connaît personne, ben, ça joue éventuellement contre eux. Il y a aussi le phénomène de la reconnaissance des équivalences. Ma conjointe est venue en tant qu'infirmière anesthésiste, mais lorsqu'il est venu ici, on lui a dit « tu peux pas exercer ». Ben, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu étudies à l'université. Est-ce que vous me donnez des équivalences? Non. Il va falloir que tu recommences un programme de 4 ans. Donc, elle étudie pour être infirmière 2 fois. 8 ans d'études pour faire la même chose qu'elle sait faire aujourd'hui et 40-50 000 $ de dette d'étudiant plus tard. Vous savez pertinemment que c'est pas tout le monde qui est prêt à refaire les études de zéro, là. Donc, entre autres, ils vont aboutir ailleurs. La dernière chose que je vais finir avec, c'est aussi la question de la discrimination systémique. C'est pas le fun, un sujet éventuellement qu'on aborde, mais le sondage qui a été effectué par le conseil nous dit que plus de 90 % des personnes peuvent témoigner que le racisme systémique existe dans nos institutions, aussi bien publiques que privées. Alors, une personne qui vient avec un nom différent, qui applique pour un certain poste, qui ne l'a pas, mais l'expérience a fait que lorsqu'on change le nom avec les mêmes acquis, avec les mêmes expériences et qu'on met un nom commun, ben dans le fond, la personne a plus de chances d'aboutir à un emploi. Alors ça, c'est des choses qu'il faut qu'on aborde en tant que société.
Juste peut-être pour faire une conclusion un peu simple de tout ce que Monsef a mentionné, c'est que l'immigration au Canada, c'est extrêmement compliqué. Il y a 62 programmes d'immigration dans le pays. Les politiques d'immigration ont été faites dans les 1950, quand on était à la recherche des chirurgiens puis des gens pour travailler pour bâtir des plans nucléaires, des hautes compétences. C'est vu comme un privilège de rentrer au Canada. Franchement, nos politiques d'immigration sont hors date, sont pas reconnaissants de la démographie au Canada ou dans les provinces, sont pas reconnaissant de la globalisation des compétences, que le monde dans les autres pays sont aussi compétents que des Canadiens, puis les systèmes d'éducation sont équivalents. Puis moi, je pense que c'est là où ça commence le problème en gros, c'est qu'on a besoin de rafraîchissement de la politique d'immigration au Canada au complet. Puis c'est bien beau d'avoir des programmes pilotes, puis ça aide, c'est certain que ça aide, puis on est supportif de ça. Mais en même temps, on a un plus gros défi de rafraîchir au complet le système d'immigration au Canada. On peut pas adresser tous les défis que MONCEF a mentionnés avec des programmes pilotes puis des espèces de one-off. Puis c'est certain que les petites compagnies dans la province peuvent pas décortiquer toute la complexité, soit culturelle, soit financière, soit la politique fédérale, le gouvernement fédéral, provincial, des programmes pilotes. Petites compagnies qui ont besoin de travailleurs à ce moment au Nouveau-Brunswick, vraiment ont pas les ressources, ont pas les compétences pour tout décortiquer la complexité de tout ça.
Votre réponse soulève une question sur l'idée que souvent des nouveaux arrivés, ils vont avoir des postes de courte durée à faible salaire pour lesquels ils sont surqualifiés. Est-ce que c'est vrai?
Oui, j'ai découvert qu'ils ont créé un terme pour ça. Ils appellent ça des survival jobs, des jobs de survie. Puis ils font ça pendant un certain temps jusqu'à temps qu'ils transitionnent. Ma conjointe fait partie de cet exemple. Infirmière anesthésiste, à l'âge de 21 ans, elle était déjà anesthésiste et en charge de toute une unité d'urgence à elle seule, en compagnie de ses collègues. Et lorsqu'elle a abouti au Nouveau-Brunswick, elle travaille dans un camp d'été, parce que c'est ça que le Nouveau-Brunswick lui donnait comme option, on va dire. Donc déjà, le fait qu'elle était majoritairement francophone, et pas nécessairement elle maîtrisait pas la langue anglaise, elle a fait ça avec le temps. Le fait que l'hôpital lui a refusé toute demande d'accès parce qu'il a dit « si t'as pas des équivalents, c'est soit que tu fais du travail de ménage, ou un petit peu, ou du travail de préposé, mais même le travail de préposé avec les termes et les conditions. » Alors, pendant un certain temps, une infirmière anesthésiste a un camp d'été. Rien contre le camp d'été, mais c'est pas ça qu'on veut pour la province du Nouveau-Brunswick. Il y en a comme ça plusieurs. Regardez dans les hôtels, regardez dans les taxis, regardez dans la construction, ben vous allez voir des personnes qui sont extrêmement bien formées, qui ont des talents, qui ont des compétences, mais qui ne sont pas nécessairement en train de les faire aujourd'hui.
Oui, puis nous autres aussi, on a déjà entendu ce terme-là de « survival job ». Puis, en général, dans notre expérience, ça applique aux partenaires du candidat qu'on amène dans le point de vue de l'immigration. C'est certain que le candidat qu'on amène, c'est elle ou lui qui ont le permis de travail. Dépendamment sur le programme d'immigration, l'épouse ou l'époux peut travailler ou non. Souvent, ils travaillent pas dans leur domaine actuel professionnel. Le défi est encore plus élevé, plus gros quand on parle des centres ruraux, des secteurs plus ruraux où il n'y a pas un gros industrie. Beaucoup de temps dans une ville, c'est une industrie qui existe là. Puis si le partenaire du candidat veut pas travailler dans l'industrie, ça fait que éventuellement on aura un problème de rétention. Puis si on pense au coût de location aujourd'hui, d'avoir une maison avec un coût à 2 000-2 500 $ par mois, c'est certain que ça prend deux personnes pour travailler qui travaillent dans la famille juste pour payer le logement. Si le partenaire travaille pas, c'est certain qu'ils vont commencer à regarder des options, soit déménager dans soit à Moncton ou Fredericton à Saint-Jean, plus urbain, ou bien de décoller, comme Monsef a dit, à Montréal ou à Toronto, où il peut atteindre plus de ressources culturelles, plus d'emplois pour la famille au complet. Donc, c'est certain, c'est un gros défi. Comment est-ce qu'on va avoir un main-d'œuvre? Comment est-ce qu'on va avoir un système qui donne une opportunité à l'époux ou l'épouse du candidat de travailler dans leur domaine préféré?
C'est clair qu'on voit les défis, qu'on voit les obstacles. Pouvez-vous nous parler un peu des stratégies? Quelles actions sont nécessaires pour faciliter cette intégration professionnelle en termes de développement de compétences, reconnaissance des qualifications, d'aide pour leur nouvelle vie? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui fonctionne? Je vais commencer avec MONCEF.
C'est une grosse question. Écoutez, je sais que le Canada est le pays qui investit le plus en matière d'établissement au monde. Il s'agit de milliards de dollars. Donc, l'infrastructure est là. Le seul souci, c'est que, comme Jason l'a dit, l'immigration est un phénomène tellement complexe. Et lorsqu'un immigrant vient d'un autre pays, on ne sait pas nécessairement qui fait quoi. On ne sait pas qu'est-ce que l'agence d'établissement fait par rapport à la province, par rapport aux employeurs. Donc, il y a vraiment, l'accès à l'information est extrêmement difficile d'obtenir. Donc, il faut vraiment centraliser la chose pour s'assurer que La personne qui aboutit dans une province, la première des choses, c'est qu'elle est matchée avec un emploi dans son champ d'expertise. Parce que les employeurs comme Jason, il y en a plusieurs, sont à la recherche de personnel qui sont qualifiés, qui ont l'intention de rester dans la province du Nouveau-Brunswick à long terme et devenir des citoyens. Alors, les stratégies, pour moi, c'est il faut investir dans l'infrastructure pour s'assurer que l'arrimage avec les emplois disponibles se fasse dans les meilleures conditions, avec zéro restriction. Parce qu'une personne, ça lui prend 6 mois pour avoir accès à une carte d'assurance maladie, c'est pas le fun. Parce qu'une personne, ça lui prend 6 mois pour avoir accès à un permis de conduire, c'est pas le fun. Parce que ça vient juste créer des embûches de plus qu'on n'a pas besoin d'avoir. On a 8000 emplois disponibles juste dans la région du Grand Moncton maintenant. 8000. Et je pense que si on regarde au niveau provincial, il y en a encore plus. Il y a des emplois à tous les jours. Alors, comme Jason le disait, il y en a 120 000 qui vont décoller dans les prochains 10 ans et qu'on n'aura pas nécessairement tous les talents pour pouvoir remplacer ces jobs qui vont partir. Ça va être un gap énorme. Il y a des personnes qui veulent venir ici. Je pense qu'il y a plus de 4 millions d'individus qui appliquent pour venir au Canada chaque année. Il y en a à peu près 10 % qui rentrent. Ces gens-là sont motivés, sont qualifiés. Ils ont le niveau de formation nécessaire pour pouvoir intégrer des emplois. Il faut juste qu'on leur permette de s'intégrer dans les meilleures conditions possibles, qu'on mette nos biais culturels un petit peu de côté et qu'on puisse penser à vivre ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, les défis en éducation, les défis en santé, les défis en employabilité, ben, on les partage. Lorsqu'une personne décède dans un hôpital, ben, ça nous concerne tous. Il n'y a pas une question ethnique là-dessus, là. C'est un individu qui est décédé juste à cause que le système ne fonctionne pas de la meilleure façon. Alors, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on mette un petit peu nos différences culturelles de côté, qu'on puisse se renforcer à travers qu'est-ce qui nous lie en tant qu'humain et qu'individu, qu'est-ce qu'on veut aboutir pour la province du Nouveau-Brunswick dans les prochaines 10 années, comment qu'on peut la bâtir ensemble. Et je suis certain que tout le monde va retrouver son compte. Peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe la langue, parce que des fois, on peut même pas parler la langue, Jason, mais on peut quand même faire un emploi. Il n'y a pas nécessairement besoin qu'on développe des compétences en linguistique, en communication très développées, parce que c'est très transactionnel. Mille et une façons de réussir notre prochain projet d'immigration qui est sociétal. Il faut juste qu'on se donne les moyens pour pouvoir le faire.
Oui, puis Julie, you know, on a parlé gros de défis, puis de challenges, mais on ne veut pas être négatif là-dessus. C'est certain que je pense qu'il y a gros de monde qui supporte l'immigration en gros, même dans des petites centres rurales où on ne pensera pas à ça. Comme Monsef a dit, c'est une province homogène, puis on est en train d'augmenter la diversité, puis moi, je trouve que c'est extrêmement une bonne affaire. Monsef a aussi dit qu'il y a une immigration pour les Néo-Brunswickers, c'est nouveau, mais c'est dans notre historique. On avait déjà des gros programmes d'immigration dans des centres ruraux pour développer toutes nos industries. On a des exemples de ça. Donc, je pense que il faut qu'on ramène toutes les compétences, il faut qu'on centralise un peu. Personnellement, je trouve que le programme pilote, où quand on donne contrôle aux provinces, le gouvernement de Nouveau-Brunswick, puis on enlève le gouvernement fédéral, on peut aller beaucoup plus vite avec ça. On peut travailler sur qu'est-ce que nous autres, on veut travailler. C'est un gouvernement de moins qu'il faut influencer, qu'il faut changer. Donc, des programmes pilotes sont vraiment un bon outil. Je pense, en même temps qu'on a des programmes pilotes, ça ramène du monde ensemble. Ça commence à créer un centre de connaissances, de compétences où on peut commencer à partager des meilleures pratiques. Puis on peut commencer à amener des petites entreprises, des autres entreprises dans la province, puis former plus la compétence provinciale qu'on a besoin. Donc ça, avec un politique provinciale, je pense qu'on peut atteindre nos objectifs assez facilement, puis ça va être vraiment une bonne affaire pour la province.
C'est un excellent point, Jason. Je rajouterais aussi, on commence à voir beaucoup de municipalités s'impliquer dans le processus de l'immigration. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'adore entendre et j'adore voir. Moncton, dans la région de Moncton maintenant, ça fait partie intégrante du développement économique. La ville de Dieppe a un département pour ça, la ville de Moncton a fait. Mais il y a aussi une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut accomplir dans les prochains 5 ans en matière de main-d'œuvre? Et le component, l'aspect immigration, c'est un aspect extrêmement important. Et comment qu'on fait pour pouvoir attirer et retenir ces personnes à l'intérieur des villes? Moncton, maintenant, je pense, accueille plus de 58 % des immigrants totaux qui rentrent dans toute la province. Juste parce qu'il y a un plan, puis il y a des gens qui sont extrêmement dédiés et motivés là-dessus. Ce que j'espère voir éventuellement, c'est chaque municipalité, qu'elle soit grande ou petite, d'avoir un plan de croissance démographique qui rime avec leur plan de développement économique. Parce que les deux vont hand in hand, vont ensemble. Et s'ils font ceci, au moins, ça leur donne comme un dashboard pour qu'ils puissent éventuellement définir c'est quoi les objectifs à long terme et à moyen terme et à court terme et être en mesure de travailler avec les partenaires là-dessus, incluant les employeurs.
Oui, puis moi aussi, j'ai gros d'expérience dans un centre urbain comme Moncton. Moi, j'ai gros d'expérience dans un petit village comme Chipman ou Saint-Quentin, un village de 1500 personnes qui ont exactement des plans de croissance de population, qui ont des programmes d'immigration, mais ça prend tout le temps un champion. Ça prend un champion pour aider aux communautés de faire un plan. Puis des entreprises ont ces compétences-là, ont des compétences de gérer un gros projet comme ça, peut aider aux ressources. Soit c'est groupe Savoie à Saint-Quentin qui amène du monde, du groupe Wesco dans le Nord-Ouest, ou nous autres, ou Mrs. Dunster's à Sussex. C'est eux autres qui peuvent être le champion pour la communauté. Donc, j'encourage les autres entreprises de s'impliquer soit dans l'immigration, puis avec leur communauté, soit urbain ou rural, pour devenir le champion. Puis, amener leurs compétences dans l'aménagement d'un projet aux communautés où ils travaillent. Puis, si on fait des partenariats comme ça avec des non-profits, soit le YMCA ou n'importe qui, c'est certain qu'on va aller beaucoup plus vite.
Parfaitement raison, parfaitement. L'exemple parfait là-dessus, c'est l'exemple de Saint-Isidore. Un petit village éventuellement au Nouveau-Brunswick qui va accueillir plus de 250 familles, si je me trompe pas, là, d'origine marocaine. C'est un projet, dans le fond, qui a été piloté par la compagnie locale, j'ai oublié le nom, mais la production de bleuets. Mais maintenant, une fois que cette compagnie a cette mission d'aller chercher ces travailleurs, mais maintenant, la ville se mobilise, les municipalités d'à côté se mobilisent, les constructeurs se mobilisent. Ils veulent créer des restaurants marocains et s'assurer qu'il y a des saveurs de couscous éventuellement qui vont être partagées par tous les citoyens. Mais ça, c'est une beauté de la chose parce qu'une communauté se mobilise ensemble juste à cause qu'un employeur est le driver, le champion de cette initiative. Ben, ça impacte tout le monde et ça englobe tout le monde.
Excellent. Puis, afin de terminer la discussion, est-ce qu'il y a des programmes ciblés de développement des compétences qui peuvent aider à préparer les nouveaux arrivants pour les besoins des employeurs locaux? Je vais commencer avec Jason.
Bien, c'est certain, Julie, que nous autres, on cherche du monde qui ont déjà des compétences. Donc, c'est pas notre priorité à ce moment d'avoir des programmes de formation dans les compétences spécifiques pour les rôles qu'on cherche. Mais je pense qu'on a besoin certainement des programmes de formation dans des compétences de comment vivre au Nouveau-Brunswick ou comment faire affaire au Nouveau-Brunswick ou comment payer les taxes au Nouveau-Brunswick. C'est pas vraiment des compétences culturelles, disons, mais c'est des compétences de vie au Canada qu'on a plus besoin. C'est certain que les centres multiculturels nous donnent des ressources, mais quand on passe à des centres plus ruraux, on n'a pas tout le temps le bénéfice d'un centre multiculturel. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a encore besoin dans la province.
Absolument. Il y a des programmes provinciaux, entre autres. L'un qui me vient à l'esprit, c'est Skills Launch. Je pense que peut-être Jason a entendu parler de ça. C'est un programme qui est pas en provincial. L'objectif principal, c'est de prendre des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences lorsqu'ils aboutissent ou ils arrivent au Nouveau-Brunswick et de les matcher avec des compétences nécessaires selon les demandes de l'industrie en tant que telle. Donc, c'est un programme, je pense que c'est sur 12 mois. Sur 6 mois ou 12 mois qui s'étalent, où ce que l'objectif principal, ça serait d'exposer les personnes à des compétences extrêmement clés et éventuellement les placer dans des industries respectives. Je pense que les universités, les collèges et les centres culturels, les multiculturels, je veux dire, ils ont une mission extrêmement pointue sur ceci. Une bonne partie des gens qui arrivent de l'international n'ont pas nécessairement les compétences qui riment avec les besoins locaux. Et c'est ça le plus gros défi. L'arrimage avec les compétences qui arrivent d'ailleurs avec les besoins, Jason en a déjà mentionné. Lorsqu'on vient éventuellement du Maroc ou de l'Afrique, oui, on n'a pas nécessairement, on n'est pas exposé à la culture des pêches et je veux dire des forêts. Ben, c'est un manque considérable pour l'industrie ici. Alors il faut faire des bridges, des programmes de pont qui font en sorte de former des personnes qui arrivent ailleurs dans un temps très 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 limité pour pouvoir répondre aux besoins de la main d'œuvre parce que les employeurs n'ont pas nécessairement beaucoup de temps. Certains employeurs, comme les micro-entreprises, n'ont même pas les moyens de pouvoir investir dans la formation. Ils ont besoin de quelque chose déjà prêt à porter et que les personnes puissent intégrer des jobs le plus tôt possible parce que la demande est extrêmement là.
Merci à vous deux, Monsef et Jason, pour l'échange fort intéressant qui nous aide vraiment à comprendre et à découvrir les spécificités de l'immigration au Nouveau-Brunswick et les besoins spécifiques de l'économie vis-à-vis ces nouveaux arrivants. Ça nous aide à bien comprendre à quel point les besoins de l'économie en termes de secteur, de compétences techniques sont essentielles, mais aussi de voir les compétences sociales et de la vie courante sont aussi importantes pour permettre à ces nouveaux arrivants de démarrer une nouvelle vie dans la province et pouvoir devenir des habitants de la province à long terme. Puis vous avez beaucoup mentionné la rétention qui est si importante. Et comme les employeurs ne peuvent pas gérer cette intégration de leurs nouvelles salariés, il est essentiel d'avoir des programmes d'intégration ou de développement professionnel venant de la province, du gouvernement fédéral ou d'autres secteurs de l'économie. Donc, un grand merci à vous deux, Monsef Lacoise, président du Conseil culturel de Nouveau-Brunswick, et Jason Limongelli, vice-président du groupe J.D. Irving. Nous sommes ravis d'avoir pu profiter de votre expérience et ces leçons de la situation au Nouveau-Brunswick, qui pourront certainement profiter à beaucoup d'employeurs au Canada. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Continuez à nous suivre et à partager ces épisodes de Balado. Je suis votre hôte, Julie Caffrey, et passez une magnifique journée. Merci beaucoup.